Radio Kapi. Oh, Kapi.
Il est 8h à Kinshasa, 9h à Bunia, en Ituri. Voici le titre de votre journal. Près de 120 personnes sont admises dans des structures sanitaires de Kambov, dans les Haut-Katanga, pour avoir fait usage de l'eau de la rivière contenant l'acide parti d'un camion citerne d'une entreprise minière. Les riverains sont invités à ne plus recourir à cette eau pour des besoins divers. Et puis cet appel du sénateur John Tibasima aux groupes armés de l'Ituri de cesser de tuer des civils innocents. À son arrivée samedi à Bunia, le sénateur a condamné les violences commises par les groupes armés, dont le meurtre de 13 personnes vendredi dernier par Codeco dans le territoire de Djougou. L'invité de ce journal est le chef du projet des armes légères et des petits calibres de l'UNMAS, Grégoire Denantès, par des opérations de marquage d'armes dans la ville de Beni, au Nord Kivu. Tout d'abord, ces réaménagements opérés hier soir dans la police nationale congolaise par le chef de l'État, le général Benjamin Alonga Boni, jusqu'hier vice-gouverneur de l'Ituri, devient le nouveau commissaire général de la police. Il remplace le général Dieudonné Amouli, mis à la retraite. Le général Silvano Kasongo, ancien commissaire provincial de Kinshasa, est premier commissaire général adjoint. D'autres nominations sont aussi effectuées dans les provinces. Nous allons y revenir. Et puis ce drame survenu à Kambov, dans la province du Haut-Katanga. Près de 120 personnes sont admises dans des structures sanitaires de la place pour avoir fait usage de l'eau de la rivière dans laquelle s'est déversé l'acide parti d'un camion citerne et d'une entreprise minière. Les populations riveraines sont invitées à ne plus recourir à cette eau pour des besoins divers. Jean Gandou est en ligne de Lubumbashi.
D'après l'administrateur du territoire de Kambov, l'incident s'est produit lors de l'opération de transphasage de l'acide dans la nuit de mercredi à jeudi. Un des robinets de la citerne contenant de l'acide a lâché et ce produit toxique a coulé dans un canal avant de se retrouver dans la rivière Kazaza. Plusieurs poissons sont morts et sont remontés à la surface. Au matin, sans se poser de questions, plusieurs personnes se sont ruées vers ces espèces halieutiques et les ont consommées. D'autres sont allées se baigner dans cette rivière sans savoir que cette eau était déjà contaminée. Vendredi, une quarantaine de malades ont été enregistrés et ce samedi, leur nombre s'élève à 119. La plupart ont été amenés à l'hôpital de la Gécamine. Ce dernier étant débordé, les autorités ont transféré d'autres malades à l'hôpital de Kampemba. Et les malades manifestent plusieurs signes tels que le chatouillement, les douleurs abdominales, le vomissement, la diarrhée et autres. L'autorité territoriale indique qu'elle est descendue sur le terrain pour s'en convaincre et multiplie des réunions avec les responsables de l'entreprise incriminée dénommée Comica SAS. D'où cet appel du coordonnateur de la société civile de Kambov, Polydor Mouchaïl.
Nous demandons à la population de ne pas manger les poissons puisque cette rivière va vers Mulungwizi et d'autres rivières qui sont après Mulungwizi.
Lubumbashi, Jean Gandou, Radio Kapi.
La CENI a prolongé de 10 jours, soit du 2 au 11 avril prochain, l'opération d'enrôlement dans l'ère opérationnelle 3. Celle-ci comprend notamment cette province de la République démocratique du Congo. Dans un communiqué rendu public ce week-end, la CENI indique que cette prolongation s'explique en raison des grands afflux des requérants qui s'observent devant les centres d'inscription à la clôture des opérations prévues le 1er avril. Le condensé de ce communiqué avec Denis Loukesso.
Dans les soucis permanents de préserver les caractères inclusifs des opérations en cours, la CENI accorde à nouveau une période de rattrapage de 10 jours s'étendant du 2 au 11 avril prochain. C'est afin de permettre à tous les Congolais remplissant les conditions requises d'obtenir la carte d'électeur et de figurer sur la liste électorale. À cet effet, la CENI est catégorique. Il n'y aura pas une troisième prorogation. Elle invite donc toute la population des provinces de l'ère opérationnelle 3 à saisir cette opportunité qui leur est offerte et de se rendre massivement pour s'enrôler. Il s'agit des pays et provinces du Nord Kivu, Sud Kivu, Bazouélé, Otouélé, Ituri, Maniema, Tchopo, le Canada et les États-Unis d'Amérique. Cependant, certains observateurs estiment que le délai de 10 jours est très court pour enrôler des milliers de requérants au Nord Kivu notamment. La CENI parle de plus de 70% des populations déjà enrôlées dans les 3 villes et 4 territoires de la province, excepté Rutshuru et Masisi où les opérations n'ont jamais été lancées. C'est à cause de l'occupation par les rebelles du M23 de certaines entités de ces deux territoires. Goma, Denis Loukesso, Radio Kapi.
Les groupes armés de l'Ituri doivent cesser de tuer des civils innocents, mais plutôt de saisir l'occasion leur offerte par le président de la République pour construire la paix dans cette province. C'est ce qu'a déclaré le sénateur John Tibasima à son arrivée hier samedi à Bunia. Le sénateur a condamné le meurtre de 13 personnes vendredi par la milice Codeco dans la chefferie de Mambisa, en territoire de Djougou. Cet ancien deuxième vice-président du Sénat exhorte toutes les couches de la population de l'Ituri à soutenir les actions du chef de l'État pour la pacification de l'Est de la RDC. Le sénateur John Tibasima est au micro de Martial Kizabiamungu.
Le chef de l'État, son excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui travaille nuit et jour, qui met en place des stratégies pour que rapidement l'Ituri retrouve la paix. Vous avez suivi, il a annoncé la tenue d'un forum. Nous encourageons les populations à accepter ces forums et à s'y investir pour que par tous les moyens qu'il mettra à la disposition des autorités provinciales, nous puissions retrouver la paix et la sécurité. Les communautés de l'Ituri n'ont pas de problème entre elles, mais elles font leur part. Nous tous, nous nous adressons aux groupes armés. Il faut que les groupes armés cessent de tuer, les groupes armés cessent de détruire. Vous savez, si aujourd'hui les groupes armés déposent les armes, se rendent à l'État congolais et font la paix, nous leur demandons de faire la paix, de donner la paix aux Ituriens. C'est terminé. Demain, les populations peuvent circuler et le drame humanitaire que nous connaissons en Ituri va prendre fin.
Insécurité dans l'est de la RDC. La société civile Force Vive Congolaise recommande au président de la République d'agir selon la volonté de la population en retirant toutes les forces étrangères du territoire national. Le professeur Nopes Kibiswa, président de cette structure, l'a déclaré hier samedi. Il réitère l'appel de sa structure au chef de l'État de conclure une alliance pérenne avec une puissance bienveillante du Conseil de sécurité des Nations Unies. L'objectif étant celui de sortir définitivement la RDC de ce cycle infernal d'insécurité. On écoute le professeur Nopes Kibiswa, joint par Alain Irung.
Excellence, Monsieur le Président de la République, s'il vous plaît, faites un effort d'écouter les appels répétés de la société civile et faites en sorte que vous puissiez agir selon la volonté de votre population en ce qui concerne la présence des forces étrangères sur notre territoire national. S'il vous plaît, les forces angolaises ne sont pas d'un pays adversaire. L'Angola, c'est un allié de taille, mais en même temps, l'Angola a le potentiel d'être plus dangereux que le Rwanda, le Burundi ou toutes les forces de l'Afrique de l'Est par sa présence à côté de la capitale congolaise. Il suffit d'une petite erreur quelque part pour que nous soyons pris en étau à Kinshasa et à partir de Kindu où vous envoyez ces troupes. D'autre part, la mission que vous confiez aux troupes angolaises d'étendre les conflits du Nord Kivu, du Sud Kivu, de l'Ituri vers le Maniema est une erreur grave.
L'ONG RFEDEF a encouragé vendredi dernier le gouvernement à faciliter aux femmes l'accès aux supports numériques. Cette structure a fait cet appel dans une rencontre organisée avec les femmes des médias de Kananga dans le cadre de la clôture du mois de la femme. À cette occasion, Rachel Katé, journaliste à la radio Kananga 24, a estimé que l'État devra créer des centres de formation de femmes sur le numérique dans les 145 territoires du pays. Elle a également suggéré au chef de l'État de promulguer la loi portant le code numérique votée depuis décembre dernier au Parlement. Rachel Katé est au téléphone de Blaise Nongala.
Nous recommandons d'accélérer la mise en œuvre du plan national du numérique Horizon 2025, de créer des centres de formation des femmes sur le numérique à moindre coût, ainsi que leur suivi et accompagnement dans le 145 territoires. Au président de la République, lors de la prochaine réunion du Conseil des ministres, de promulguer la loi portant code numérique votée au Parlement depuis décembre 2022, d'accélérer la mise en œuvre du projet de fourniture d'accès à Internet gratuit dans les 145 territoires, de réguler l'espace numérique, principalement des réseaux sociaux, pouvant aider à lutter contre les harcèlements sexuels sur les réseaux sociaux, et organisation de la société civile, de sensibiliser les femmes et les jeunes filles sur la culture numérique.
Et puis à Bandundu, chef-lieu de la province du Kwilu, la bourgmestre de la commune de Basoko a sensibilisé les jeunes filles de sa juridiction sur la thématique liée au numérique. Cette sensibilisation a eu lieu au cours d'une conférence débat organisée hier samedi par l'agence de communication et de production Les As de la presse. Cela dans le cadre de la clôture du mois de mars dédiée à la femme. Des détails avec Irène Boma.
Plus de 50 jeunes filles de Bandundu, à majorité des étudiantes ainsi que quelques jeunes hommes, ont préparé à cette conférence débat organisée sous le thème « Autonomisation de la jeune fille à l'ère du numérique ». À l'occasion, Madame Kassilda Kibongo les a sensibilisées sur l'importance du numérique chez la jeune fille.
Aujourd'hui, quand on parle de numérique, tout va avec en termes de demande d'emploi, en termes de recherche, en termes de vente, ainsi de suite. Donc, filles de Bandundu, réveillons-nous, utilisons en bon escient le numérique pour se mettre en ligne par rapport à la nouvelle technologie.
Du côté des participantes, Emeraude Ngalula s'est dite satisfaite de la matière récite à ce jour.
J'ai salué vraiment cette initiative, ça m'a apporté un plus dans ma vie. Je ne savais pas ce que c'est le numérique, mais aujourd'hui j'ai appris ça et son importance.
Cette activité a permis, selon certaines participantes, de clôturer en beauté le mois de mars dédié à la femme. Irène Mboma, Bandundouville, Radio Okapi.
Dans la province du Maniema, cela fait déjà 3 mois que la centrale d'achat et de distribution des médicaments essentiels au Maniema, CDR Kamema, ne distribue plus les médicaments aux zones de santé. Pour cause, le conflit de leadership. Le président du conseil d'administration de cette structure a appelé à l'implication urgente des autorités. Amoury Masilanga en parle au micro de Florence Kizalunga.
Actuellement, la CDR Kamema ne fonctionne pas comme il est dit dans notre politique. Il y a 3 mois, depuis que au sein de la Kamema, il s'est créé 2 camps. Il y a un camp qui veut à ce que nous puissions continuer à faire ce qui nous a été légué, mandaté par le gouvernement. Mais l'autre camp ne veut pas que nous puissions travailler de cette façon-là. C'est ainsi que, pour la première fois, le gouvernement nous a interpellés pour que nous puissions nous réunir. On s'était déjà réunis, mais curieusement, à partir du 31 mars, il y a eu une autre assemblée ordinaire organisée par l'autre camp. C'est ainsi que nous revenons encore auprès du gouvernement pour nous prêter une main forte afin de mettre fin à tous ces problèmes pour que Kamema commence à distribuer, comme elle en a toujours fait, les médicaments à toutes les zones de santé. Parce que c'est la population qui est en train de souffrir. Quand on ne distribue pas les médicaments, il y a des rechutes, il y a des décès, etc.
Le coordonnateur national du réseau de protection et de défenseurs des droits de l'homme, victimes, témoins et professionnels des médias, Reprodev, a interpellé le gouvernement congolais et la communauté internationale par rapport à la détérioration de la situation des droits de l'homme en RDC. Dans sa déclaration faite à la 52e session du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies tenue jeudi dernier à Genève, Junior Safari a déploré la présence des groupes armés dans plusieurs provinces de la RDC, ainsi que les critères de non-inclusivité qui caractérisent les processus électoraux congolais. Junior Safari a été joint par Esther Ndalafina.
Nous avons interpellé le Conseil des droits de l'homme sur l'existence d'environ 150 groupes armés qui sont dans certaines provinces, notamment les provinces de l'Ituri, du Maniema, du Nord et Sud Kivu et Tanganyika, soutenu par certains États de la région grâce à l'appui financier mafieux et étranger. Rappelons ici que le gouvernement congolais a fait plusieurs promesses sur sa volonté d'améliorer la situation des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qui les a classés parmi les priorités de ses actions. Malheureusement, les moyens n'ont jamais suivi la promesse de ses discours. Deuxièmement, nous avons fait allusion à la situation électorale. On notera les troupes dans la province de Maïndombe et la population n'a pas été enrôlée, ce qui veut dire qu'il y a encore des doutes à émettre sur le processus électoral. Troisièmement, nous avons interpellé la communauté internationale, en particulier les Nations Unies, a sanctionné les auteurs de crimes et de violations du droit international en RDC. Et nous avions interpellé le Conseil sur la nécessité et l'urgence de traduire en acte les recommandations du rapport du projet Mapping, en déclenchant bien sûr les mécanismes de justice transitionnelle.
Actualité internationale.
Hausse spectaculaire du tarif de l'électricité en Afrique du Sud. Il a augmenté de plus de 18% au 1er avril. Une hausse qui fait polémique depuis son annonce en janvier en pleine crise de l'électricité. Les Sud-Africains vivent cette hausse comme une injustice dans un pays marqué par l'extrême pauvreté. L'Ukraine commande la production de 100 blindés à la Pologne si elle a obtenu les chars Léopard 2 qu'il réclamait ainsi que certains avions de combat. Kiev a cette fois passé commande auprès de la Pologne. Varsovie va produire et livrer 100 véhicules de transport blindés KTO Rosomak à l'Ukraine. De quoi satisfaire le gouvernement polonais.
L'invité.
L'invité de ce journal est le chef du projet des armes légères et des petits calibres de l'UNMAS. Grégoire de Nantes parle des opérations de marquage d'armes dans la ville de Beni, au Nord Kivu. Il s'entretient avec Gulen Kassassia.
Monsieur Grégoire de Nantes, bonjour.
Bonjour.
Oui, vous venez de clôturer la cérémonie de marquage d'armes ici dans la ville de Beni. Expliquez-nous, qu'est-ce l'opération de marquage d'armes ?
L'opération de marquage d'armes, il s'agit dans le cadre des normes internationales précisées par le protocole de Nairobi, de procurer un marquage uniforme dans tout le pays et un marquage qui puisse être exploité également en transfrontalier, de manière à pouvoir localiser les armes quand les armes se retrouvent de l'autre côté de la frontière, que les gens puissent communiquer les numéros. Le principe du marquage, à la base, toutes les armes ont des numéros de série, des numéros de fabricants, donc ça permet déjà d'inventorier les armes. Le principe du marquage, c'est d'enregistrer au niveau national et de pouvoir avoir un meilleur suivi de ces armes. Donc il est très important que ces armes soient marquées et enregistrées. Il est bien évident qu'une arme marquée et non enregistrée serait plus dangereuse qu'une arme non marquée, parce qu'elle présenterait tous les aspects d'une arme légale, alors qu'elle ne le serait pas. Donc le principal, c'est que ça soit enregistré au niveau national.
Pourquoi marquer surtout les armes dans une zone comme l'est du pays, Beni, où il y a insécurité selon vous ?
Alors, il faut marquer bien évidemment, comme je l'ai dit tout à l'heure, les armes les plus exposées au mouvement et en zone d'insécurité, c'est les armes les plus susceptibles de disparaître, d'être volées, soit lors d'un transfert massif d'une région à l'autre, soit surtout au niveau du combattant individuel qui est plus exposé au vol. Vraiment, l'Est est prioritairement ciblé, mais il est bien évident que pour la CNC, ça s'applique à tout le territoire national, parce que la CNC n'a pas une responsabilité uniquement limitée à l'Est du Congo.
Alors, avant Beni, avez-vous déjà fait la même opération dans d'autres régions du pays?
Alors, on a déjà fait des opérations jusqu'en 2021. On a fait essentiellement en Ituri et au Tanganyika. Et pendant la période Covid, donc, comme on ne pouvait pas accéder au Tanganyika, on a profité pour marquer des armes sur Kinshasa, parce qu'il en reste encore à marquer. Mais maintenant, avec la place laissée vide par le REXA qui ne marque plus ici au Congo, eh bien, nous reprenons la charge de Nord Kivu et Sud Kivu, qui sont, je dirais, les zones les plus importantes de détention d'armes de l'État.
Alors, après le marquage d'armes dans d'autres régions, là, qu'est-ce que vous aviez constaté sur le terrain ?
Eh bien, on a constaté que on avait commencé à marquer les gros flux, que maintenant il fallait aller avancer un peu plus dans les régions pour marquer les plus petits stocks. Donc ça allait être plus compliqué. Et on a constaté également que après un marquage au Tanganyika, il y a eu des armes qui se sont retrouvées saisies dans des stocks illégaux qui avaient été marqués moins de 3 mois ou 4 mois avant dans la région du Tanganyika. Donc ça a prouvé l'efficacité du marquage. Ça a permis de retracer tout de suite l'origine de ces armes.
C'est quoi alors les rôles ou la contribution des UNMAS dans cette opération de marquage d'armes?
Notre rôle est essentiellement de provoquer les opérations en donnant un soutien plus technique et financier. Et on anime les opérations, c'est-à-dire qu'on les aide à programmer, à planifier les opérations, de manière à ce qu'elles donnent, ce qu'elles aillent vers le plus de résultats possible.
Après Beni, c'est quoi la prochaine étape ?
La prochaine étape, une mission de reconnaissance qui a eu lieu à Bukavu la semaine dernière, avec les chefs de la Commission nationale de contrôle, le but étant d'identifier les stocks à marquer. Et du 14 au 28 avril, il y aura une opération de marquage dans le sud Kivu avec un objectif de 2500 armes, comme ici sur Beni.
Après le marquage de ces armes, qu'est-ce qu'il y aura encore comme activité ?
Mais en fait, il y a eu deux sortes de stocks de marqués en priorité. Les premiers, c'est des stocks d'armes qui vont partir en réparation. Donc à partir du moment où il y a transfert d'armes, il est important que ces armes soient marquées, parce que le transfert, c'est toujours une période d'exposition des armes à des disparitions d'armes, donc il était important qu'elles soient marquées. La deuxième chose, c'est que les stocks marqués visent aussi à être déplacés vers l'avant et distribués vers l'avant, parce que les gens sont les plus exposés. Le combattant individuel peut plus facilement soit perdre son arme, soit se faire attaquer, et donc ces armes, une fois dérobées, elles seront marquées, donc un jour ou l'autre, elles referont surface et ce sera plus facile de les identifier. Donc maintenant, la partie importante, et qui attend la CNC, ceux qui vont revenir à Kinshasa, c'est de mettre à jour la base de données et d'exploiter toutes ces données.
Monsieur Gogoua de Nantes, nous vous remercions.
C'était notre invité Grégoire de Nantes, chef de projet des armes légères et des petits calibres de l'UNMAS, dans un entretien à Béni avec Gulen Kassassia. Fin de ce journal qui a été préparé par Pierre-Louis Lamengi et Alain Irung. Mimi Kindou était à la technique. Merci de continuer à les réécouter sur toutes les plateformes digitales de Radio Okapi.